c'est quelqu'un d'abord qui a été élevé dans l'idée de devenir roi, hein, bien sûr, avec ses deux frères. Donc il est vraiment préparé depuis très longtemps à cette fonction. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être le premier roi depuis 120 ans, puisqu'on a une dynastie de reines régnantes assez extraordinaire depuis Wilhelmine, Juliana et Béatrix. Donc là, on repasse, je dirais, du côté des mâles avec Wilhelm-Alexander, qui ne sera pas Guillaume IV, hein, parce qu'à un moment, on pensait qu'il se ferait appeler Guillaume IV en souvenir de ses trois prédécesseurs, qui au XIXe siècle étaient trois rois Guillaume, mais il se fera appeler Wilhelm-Alexander, donc Guillaume-Alexandre. Il garde son prénom.
Le roi a été intronisé et non couronné. C'est une signification particulière, hein, qui marque notamment la séparation entre l'Église et la monarchie. C'est important, ça.
Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, assez paradoxalement, les Pays-Bas ont inventé la démocratie, ont inventé la République au XVIe siècle, lorsqu'ils se sont débarrassés de la tutelle de Philippe II d'Espagne. Et ils ont mis à leur tête un statuteur, c'est-à-dire un lieutenant, qui était Guillaume d'Orange, qui est donc l'ancêtre lointain de la famille actuelle. Et ce Guillaume d'Orange, en fait, n'a jamais été roi lui-même. Mais la monarchie n'a été instaurée qu'au XIXe siècle, en 1815, par le traité de Vienne. Donc en fait, c'est une monarchie, je dirais, très démocratique, presque républicaine, puisque ces rois et ces reines des Pays-Bas règnent sur un peuple très jaloux de ses prérogatives et de ses libertés.
Que représente aujourd'hui, en 2013, la monarchie pour les Néerlandais ?
La monarchie pour les Néerlandais, aujourd'hui, reste un élément, un ferment d'unité, un symbole national surtout, hein, dans un monde qui quand même se mondialise, qui s'uniformise de plus en plus. Bien, ces pays d'Europe qui ont gardé ce trait d'union avec leur passé, sont souvent très attachés à cette institution. Le roi, effectivement, ou la reine ne règne pas directement, ils n'ont pas un rôle politique direct, mais en cas de crise grave, c'est eux qui sont chargés de résoudre le dilemme et de trouver un premier ministre. Ça a été le cas, par exemple, en Belgique, il y a quelques mois, où pendant 2 ans, il n'y a pas eu de premier ministre. Et c'est le roi Albert qui a, en quelque sorte, assumé l'intérim.
Le nouveau roi des Pays-Bas est très jeune, 46 ans, hein, c'est le plus jeune souverain d'Europe. Est-ce que cette idée de genèse, de monarchie en pleine santé, si j'ose dire, est importante à l'heure où, dans d'autres pays, on pense notamment à l'Espagne, on est en phase de monarchie vieillissante?
Oui, mais justement, les Pays-Bas ont su, depuis plusieurs générations, hein, depuis Wilhelmine, passer la main, je dirais. C'est-à-dire que les reines successives ne sont pas mortes sur le trône, mais vers 75 ans, comme cela, elles ont passé la main à leurs successeurs. Et ça a été, je pense, un élément de rajeunissement permanent pour cette institution. On parlait autrefois de monarchie à bicyclette, hein, pour les Pays-Bas, parce que c'est une royauté tout à fait particulière, un petit peu comme les royautés scandinaves, très ouverte sur le peuple, très dynamique. On voit Wilhelm-Alexander très souvent dans les fêtes populaires. Bon, il est absolument pas du tout entouré d'un protocole, c'est quelqu'un de très simple, et donc c'est vrai que c'est une monarchie qui sait se renouveler, qui sait vivre avec son temps, et donc là il a 3 filles qui elles aussi en leur temps prendront la succession.